Chapitre 39. La journée avait commencé par le défilé de la Sainte Lucie à la Enoa pour célébrer le solstice d'hiver. Yuna avait encore des paillettes dans les cheveux lors de la réunion du matin, lorsqu'ils avaient appris qu'il faudrait attendre 2 semaines avant que le Centre national de criminalistique ne se penche sur leurs analyses. Se sont ensuivis 3 jours d'enquêtes frustrants, composés d'interrogatoires de la famille et des amis de la victime, de vaines enquêtes de voisinage et de tentatives infructueuses pour retrouver la trace de l'Opel. Ils ont passé en revue une quantité considérable de données issues des caméras de surveillance autour du camping, du club de tennis et d'Eve Carlobby. Aucune trace de la voiture. Il fait sombre dans l'appartement lorsque Yuna rentre chez lui. Il allume dans la cuisine, met une casserole de pommes de terre à chauffer, fait frire les galettes de viande qu'il a confectionnées le matin, et prépare une sauce à la crème et au cognac. Il a envoyé un message à Saga pour lui demander si elle voulait venir dîner avec lui, mais comme d'habitude, elle a répondu « Merci, mais je n'ai pas le temps ce soir ». En silence, Yuna dresse la table pour une seule personne, ouvre une bière sans alcool et déguste son repas avec de la confiture d'érel et des concombres marinés. Valeria lui manque tellement que lui revient soudain le souvenir des aiguilles brûlantes de Leila. Les délicates volutes de fumée. Son âme a été si profondément meurtrie au fil des années que durant ses heures les plus sombres, il lui est arrivé de fumer de l'opium pour sombrer, presque jusqu'à la mort, avant de pouvoir revenir à la surface. Il ne veut plus tomber aussi bas, plus jamais sentir ses courants froids. Il ne supporte pas l'idée de lire la déception dans le regard de Valeria. « Je suis plus faible que fort, » pense-t-il. Mais c'est justement à cause de cette faiblesse que je dois me forcer à avancer. Je n'ai pas le droit d'abandonner. Jamais. Yuna fait la vaisselle, essuie la table. Il est en train de ranger les restes dans le frigo quand le téléphone sonne. Il retourne à la table, voit que l'appel vient d'Agnetta et répond immédiatement. « Tu peux parler ?» demande-t-elle. « Absolument. »« J'ai déjà la réponse. J'ai dû payer un peu plus pour le service express, » dit-elle. Nous avons obtenu une très bonne correspondance avec l'ADN. Quel degré de correspondance? Il entend Bernard parler en arrière-plan d'une voix excitée. Il n'y a qu'une mutation, explique Agnetta. Donc il ne peut s'agir que de la mère, d'une sœur ou d'un enfant de la meurtrière. Pourrais-tu... Yuna s'interrompt lorsque son téléphone vibre. Agnetta lui a partagé un contact. Elisabeth Olson, 4416. 18e rue, San Francisco, Californie, 94-114 USA. Téléphone, +1 415 831 1200. Yuna la remercie, termine l'appel et compose aussitôt le numéro. Les tonalités semblent lointaines, comme perdues au fond d'un gouffre. Puis la ligne devient claire, étrangement proche. Ici Elisabeth, répond une femme comme si elle se tenait juste devant lui. Bonjour. Je m'appelle Yuna Lina. Je suis commissaire de police. Que s'est-il passé? L'interrompt-elle d'une voix inquiète. Je mène une enquête sur un crime grave commis en Suède et j'aurais besoin de vous poser quelques questions.
Quel genre de crime?
On entend des cris, des rires, des sifflets venant d'une cour d'école ou d'une aire de jeu. Nous avons trouvé une correspondance génétique très proche de vous et nous nous demandons si vous avez un enfant, une mère ou une sœur qui se serait rendue en Suède récemment.
« J'ai une sœur en Suède ?» répond-elle la gorge nouée.
« Pas d'enfant ?»«
Ils ont 5 et 8 ans.
Vous pouvez prouver leur alibi ?» plaisante Yuna.
« Pour le petit, je suis pas tout à fait sûr, » dit-elle en riant un peu.
« C'est bien noté. Je n'ai aucun contact avec ma sœur, mais je suppose qu'elle vit toujours dans la ferme familiale.
Où se trouve cette ferme ?»«
Enfin, une ferme, c'est beaucoup dire. » C'est plutôt une ruine, hein, dans un trou paumé qui s'appelle Rigby. C'est là que j'ai grandi.
Rigby, à Vallentuna?
Oui.
Comment s'appelle votre sœur?
Lotta, Anne Charlotte Olson.
Vous lui avez parlé récemment?
Que s'est-il passé?
Demande-t-elle à nouveau.
Je ne peux malheureusement rien révéler d'une enquête en cours, répond-il.
J'imagine que ce n'est pas juste pour une fraude aux aides sociales ou pour de l'alcool de contrebande.
Non.
Yuna la remercie puis s'installe devant son ordinateur pour rechercher le nom de la sœur et repérer la ferme. Sur la photo aérienne, on distingue 5 petits bâtiments au bout d'un chemin de gravier. Le lieu est isolé entre champs et forêts. « Ne bougez pas », dit-il à l'adresse des maisons sur son écran. Yuna se campe à la fenêtre, regarde vers le nord au-delà du château d'eau de Stocksund, puis appelle Noah. Son chef est en train de jurer et de frapper la table de billard avec rage au moment où il décroche. Il est difficile de dire quand la meurtrière a commencé à être surnommée « la veuve du couloir », mais tout le monde a averti Yuna qu'il fallait éviter d'utiliser ce nom ou le terme « tueuse en série » devant Noah. « On a du nouveau. Une correspondance ADN sur un cheveu. Une femme à Valentuna. »« Vraiment ?» demande Noah. « Oui, mais je suis passé par des bases de données généalogiques, » avoue Yuna. « Tu peux pas me dire ça !» s'exclame Noah. « Je vais devoir te renvoyer, tu comprends ? Si je suis au courant, je suis obligé d'agir. »« Tu peux juste me signaler au procureur, » réplique Yuna. « Tu veux être signalé ?» Je sais que j'ai agi contre l'avis des autorités, mais on risque bientôt d'avoir un quatrième, puis un cinquième meurtre. Mon Dieu, je vais devoir confier l'enquête à Peter, soupire-t-il. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais on va perdre le fil. Commence par consulter le syndicat, l'interrompt Yuna. C'est peut-être ce que je devrais faire, mais ça peut mettre des semaines. Oups, sourit Yuna. Un silence de quelques secondes s'installe. Une boule de billard percute doucement la bande avant d'aller toucher une autre boule dans un petit bruit sec. « Ok, putain, j'ai compris, » soupire Noah. « On fait comme ça. Je transmets au syndicat et tu continues l'enquête en attendant. » « J'ai besoin dans l'heure d'une équipe de la brigade d'intervention et d'experts en drone, » dit Yuna. « Pour interroger une femme ?»« Une présumée tueuse en série. On n'utilise pas ce mot. Tueuse en série ?» « Mon Dieu ! Donne-moi une équipe, » insiste Yuna. « T'as choisi de bosser seule, sérieusement ? Gère ça sans moi. Prends la police locale de Tebi ou demande à Nortelieu. »« Je peux emmener Sega Bauer ? Tu connais la réponse. » Yuna met fin à l'appel, puis se rend dans l'entrée pour enfiler ses chaussures, quitte l'appartement, ferme la clé et court vers l'ascenseur. Yuna roule vers le nord, et passe devant l'université avant de rejoindre le 18. Puisque Noah a refusé de lui envoyer une unité d'intervention, il appelle le centre de commandement régional et demande s'il y a des voitures disponibles dans les environs. L'officier de service contacte 4 unités, dont 2 répondent immédiatement à l'appel. La suspecte, Anne-Charlotte Olson, vit avec Åkerberg, avec qui elle a 2 enfants en âge de fréquenter la maternelle et l'école primaire. Les parents sont fichés pour escroquerie, fraude fiscale, menaces, violences et recel. Ils sont au chômage depuis longtemps et ont fait l'objet ces 5 dernières années d'enquêtes des services sociaux suite à plusieurs signalements préoccupants concernant leurs enfants. Le trafic s'écoule avec fluidité le long des larges courbes de la Civoie. 3 grands silos recouverts de graffitis rouge sang se dressent au bord de la route comme les vestiges d'une ancienne fortification. Puis le paysage devient de plus en plus rural. Forêt, champs et lacs sombres nichés dans les failles millénaires du relief. Yuna quitte l'autoroute pour prendre la départementale 280, puis zigzague sur des axes de plus en plus étroits vers le point de rendez-vous. Peu après une intersection, une voiture de police est stationnée en travers de la chaussée pour détourner les véhicules de la route qui passe par Rikbe. Yuna ralentit et s'arrête. 2 collègues en civil attendent, les épaules relevées à cause du froid. Leur souffle forme des nuages légers. Yuna sort de la voiture et va les saluer. « Grégory !» dit l'homme plus âgé. « Peck !» se présente l'autre. « En vrai, c'est Peter, mais... tu vois quoi ?» Grégory est un homme fort d'environ 40 ans, avec un regard un peu humide derrière des lunettes à monture métallique. Il porte un jean noir et un blouson en cuir brun. Peck ne doit pas avoir plus de 30 ans. Il a des marques d'acné sur les joues et de grandes dents. Sous son coupe-vent bleu marine, il est vêtu d'un sweat à capuche vert et d'un pantalon de survêtement sombre avec des poches latérales. Yuna leur explique la situation, sans mentionner qu'il aurait préféré faire appel à l'unité nationale d'intervention et à des reconnaissances par drone. « Nous allons donc emmener Anne-Charlotte Olson pour un interrogatoire, » explique Yona. Elle est liée à 4 meurtres et il y a peu de chances qu'elle nous suive de son plein gré.
On va devoir lui demander gentiment, dit Grégory.
Son compagnon, Hockeberg, est peut-être sur place, et ils ont 2 jeunes enfants.
On connaît la famille, le coupe Grégory. Ils ont toujours vécu ici. Ils se disputent avec les voisins, montent des petites arnaques, ouvrent des comptes fictifs, fraudent les aides sociales. Ils retapent aussi des voitures volées grâce à un contact chez un carrossier industriel. C'est une famille à problème, mais pas dangereuse.
Est-ce qu'ils possèdent des armes ? Demande Yona.
Aucune enregistrée, mais au moins un fusil, je suppose.
Ils vous reconnaîtront ?
Je pense pas, répond Grégory.
On va y aller et demander à Anne-Charlotte de nous accompagner à Nortelieu pour répondre à quelques questions.
Rien de plus, dit Yona. On reste discret. On évite l'arrestation formelle. Mais s'il faut employer la force, on le fera.
D'accord, répond Peck à voix basse. Et si ça devient critique, la priorité c'est la sécurité, poursuit Yona. On recule et on attend du renfort. Pas de tir sans nécessité absolue.
On est quand même loin des zones sensibles de Stockholm, sourit Grégory en replaçant ses lunettes sur son nez.
Je peux voir. Vous êtes équipé de Sigsawa ? Demande Yona.
Oui.
P-239, précise Peck. Ils montrent tous les deux leurs pistolets à Yona. Quand avez-vous tiré pour la dernière fois ?
Mon Dieu, soupire Grégory. Je suis allé au stand de tir, je sais plus, peut-être l'année dernière ou celle d'avant.
Mais vous vérifiez bien l'alimentation, le percuteur ?
Bien sûr, répond-il.
Et toi, Peck ?
Pas très souvent,
répond Peck en baissant les yeux. Vous portez une arme de secours ? Grégory secoue la tête.
Et j'ai toujours ça, dit Peck en montrant une fusée de détresse.
Il s'est perdu pendant son stage, rigole Grégory.
Très drôle, dit Peck à Yona. Je sais, mais sérieusement, la campagne est vraiment sombre.
Tout se ressemble. Des champs, des forêts et des maisons rouges sur des kilomètres.